Cube Radio.
LP, lorsque vient le temps de magasiner un véhicule neuf ou d'occasion, quels sont tes critères?
Plusieurs critères, les capacités, la performance, je vais te dire la maniabilité, faut pas qu'il soit lettre. Et puis, ouais, c'est pas mal ça.
Pas la pollution!
Ben, écoute, là, tu me le demandes. Le gaz coûte cher.
Tu n'es pas éco-anxieux? Non, non, je te parle pas de consommation en litres aux 100 km. Je te parle d'émissions polluantes. Okay. Je te parle d'éco-anxiété.
Inutile.
Je te parle de notre planète. Nous n'avons qu'une planète, LP.
La planète m'a tout donné, puis moi, je suis ingrat. Ça, t'es en train de te dire?
Tu peux tirer les conclusions que tu veux.
Écoute, inutilement polluant, le véhicule, je vais te dire que je le prendrai pas. Un véhicule qui a une consommation comparativement aux autres dans son segment, pour une performance même, une expérience similaire, mais qui consomme beaucoup plus qu'un autre, par exemple un véhicule rival, je vais pas choisir celui qui est plus polluant pour le fun. Là.
D'accord. Mais ce sera pas ton premier critère.
Non.
C'est correct. Moi non plus. Mais aujourd'hui, on va quand même parler des véhicules les plus polluants en 2023, d'après les données fournies par Ressources naturelles Canada.
On part?
On part! Effectivement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de sauver la planète, LP. On parle de véhicules électriques, on parle de véhicules qui consomment peu. Mais il y a une donnée qui nous est pourtant très, très, très accessible, qui est celle des émissions polluantes, donc émissions de CO2. C'est calculé en grammes par kilomètre sur une base annuelle. Et on n'en parle jamais.
Ben, là, je vois les gens qui aiment beaucoup, beaucoup les véhicules électriques ou qui aiment très peu les véhicules électriques arriver avec leurs arguments. D'une part, en disant qu'il ne devrait plus avoir de véhicules à essence. Et de l'autre, de dire que les véhicules à essence sont moins polluants que les véhicules électriques si on considère toute l'extraction des matières premières, etc., etc. Aujourd'hui, on parlera pas nécessairement de ça.
Non.
On va parler de qu'est-ce qui sort de l'embout de l'échappement en termes de gaz à effet de serre sur ces véhicules-là. Puis c'est les pires de toute l'industrie automobile qu'on va vous donner.
On peut faire certains rapprochements aussi avec les 10 véhicules qui consomment le plus. Là, il y a certains véhicules qui se recoupent dans ces palmarès-là. Mais on part tout de suite avec le numéro 10, le Rolls-Royce Ghost, la voiture fantôme de Rolls-Royce. Et là, je ne veux pas être un divulgacheur, mais vous pourrez imaginer que ce n'est pas le seul véhicule Rolls-Royce dans ce palmarès. Donc, on a une émission de 388 grammes de CO2 par kilomètre. C'est-tu beaucoup, ça, LP?
C'est beaucoup, tout dépendant avec quoi qu'on la compare. C'est sûr qu'à 16,7 litres, au 100, ça c'est l'équivalent d'une conduite combinée selon les données de Ressources Canada. Si on compare ça avec une Nissan Sentra, par exemple, qu'on parle plus
ben oui.
7,3 litres au 100, c'est pas mal deux fois et un petit peu plus. Par contre, on a pas mal plus de char avec la Ghost.
Mais en même temps, avec un moteur à 12 cylindres, on peut pas faire un miracle en termes d'émissions polluantes. Là.
Oui, c'est un moteur qui est assez vieux, une transmission qui est assez vieille. Puis, on s'entend que chez Rolls-Royce, là, on fait pas vraiment de compromis sur le poids. Hein. Les véhicules sont extrêmement pesants.
Oui.
Tout est dedans. Il n'y a absolument rien qui manque dans ces véhicules-là pour le confort de ses occupants. Donc ça, ça coûte cher en termes de poids puis ça coûte évidemment cher en termes de consommation.
Et si en entendant tout ça, vous avez votre degré d'éco-anxiété ne fait qu'augmenter, ben on peut quand même vous rassurer en disant que des Rolls-Royce au Canada, ils s'en vendent très peu annuellement. C'est vraiment pas des véhicules courants sur nos routes, à moins d'aller dans certains quartiers de Westmount, de Toronto ou de Vancouver. Là.
Parfait. Numéro 9. Le Rolls-Royce Cullinan.
Ben oui, en fait, on a la même mécanique que dans le cas de la Ghost.
Ouais.
Donc, il faut s'attendre à des données similaires. C'est toujours le moteur V12 de 6,7 litres. C'est énorme comme cylindrée.
Oui, puis un véhicule qui consomme similaire, le 16,6 litres au 100 en conduite combinée, une boîte dans le vent. Le Cullinan, c'est vraiment
boîte
une grosse boîte dans le vent. Non plus, on ne compromet sur rien. Tout est dedans. Tous les systèmes pour rendre le confort extraordinaire pour les occupants. Chez Rolls-Royce, on n'a pas été plus fou que les autres. On a créé cet utilitaire-là pour faire plus de ventes. Et puis, ben, c'est le véhicule chez Rolls-Royce qui est facilement le plus vendu. Et puis, ben, il est très apprécié par la clientèle très huppée dans certains pays. Ici, on en voit par ratio. Dans le fond, on voit beaucoup de Cullinan à Montréal, plus que des Ghosts qu'on a mentionnés dans le numéro 10, mais un véhicule qui est tout aussi très polluant.
Tu disais une clientèle fortunée, mais une clientèle qui aime en mettre plein la vue, là. Une clientèle qui aime tout ce qui est ostentatoire et qui déborde de luxe. On est à 389, dans ce cas-ci, grammes de CO2 par kilomètre. Numéro 8, Chevrolet Corvette, mais pas n'importe quelle version. La version Z06 de la Corvette, forcément, de 8e génération. On sait que la Corvette Z06, bon, pour le moment, c'est la version la plus impressionnante. J'ai hâte de voir ce que la Corvette E-Ray pourra proposer de ce côté-là. Dans le cas de la Z06, ben, c'est le moteur à 8 cylindres de 5,5 litres. Et
670 chevaux, c'est pas rien.
C'est même énorme, j'aurais tendance à te dire. Et dans ce cas-ci, on est à 392 grammes. De CO2 par kilomètre, une consommation moyenne de 16,7 litres au 100 kilomètres. Puis ça, là, c'est calculé avec des normes de fonctionnaires.
Ben là, je te dis, c'est ça que j'allais dire. Les Z06, là, tout le monde va conduire ça sur la piste. Il n'y a aucune façon que c'est représentatif du comportement qu'on va avoir avec ce véhicule-là sur la piste.
Et je trouve ça quand même très paradoxal parce qu'il n'y a aucun acheteur des véhicules qu'on présente en ce moment qui s'intéressent non seulement à la consommation, mais encore moins aux émissions polluantes. Ouais. Alors, je trouve ça intéressant de sortir cette donnée-là. Et oui, 16,7 litres, dans la réalité, ça va probablement être plus 25.
Numéro 7, la Bentley Continental GTC Speed avec 17 litres au 100 de consommation combinée, 392 grammes par kilomètre au niveau du CO2. Un autre véhicule d'exception, le Germain.
Évidemment, on peut pas s'attendre à des miracles en termes d'émissions polluantes ou de consommation. On a un moteur W12 sous le capot. C'est énorme, de 6 litres. Moteur pour lequel Bentley a annoncé l'arrêt de la production dans les mois à venir.
Un vieux moteur quand même là qui était là depuis tellement longtemps.
Oui, exactement. Donc, on ne l'a pas nécessairement fait évoluer, mais en même temps, il y a des normes environnementales à respecter, des normes qui sont de plus en plus sévères. Oui. Alors, un autre moteur à 12 cylindres qui nous dira au revoir. Pourtant, sous le capot d'un véhicule de très grand luxe comme ça, il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer un moteur à 12 cylindres.
Ça va être difficile. On va creuser dans les hybrides et on va convaincre les acheteurs que c'est plus performant.
T'as beau avoir tous les moteurs électriques que tu veux, la technologie hybride la plus poussée que tu veux, 12 cylindres, là, c'est bien.
C'est du fun à 12 ans.
C'est beaucoup, beaucoup. Ouais. J'aime ça comme... Ça ferait un bon titre.
Du fun à la 12 ans.
Je le note pour... je me l'accapare pour le guide de l'auto 2024.
Non.
Oui.
C'est même pas
il est trop tard. Numéro 6. Ben, un troisième véhicule Rolls-Royce. La Phantom, cette fois-ci. La grosse berline de la gamme. 397 grammes par kilomètre de CO2. On annonce une consommation, ben oui, de 17 litres au 100, mais encore là, ça va probablement être plutôt de 22 dans la réalité. Ouais. Mais quand on dépense plus d'un demi-million pour une voiture, mettre quelques litres de super de plus ou de moins au bout de l'année, je pense pas que ça fera une grande différence. Et je pense pas que quand on a une voiture comme une Phantom et probablement 3-4 jets privés, la survie de la planète, ça soit vraiment, vraiment un critère d'achat.
Tu penses pas qu'on accumule les pétropoints non plus?
Ben, je sais pas.
Ben, écoute, ça serait avantageux pour ces gens-là. Ils en accumulent plus.
Oui, c'est
plus
ça.
D'essence.
Plus de pétropoints. De pétropoints, d'accord. Et voilà, numéro 6, Rolls-Royce Phantom. Je pense que dans la vie, il n'y a pas beaucoup de palmarès dans lesquels on retrouve 3 véhicules Rolls-Royce sur 10 véhicules.
Oui, puis les personnes qui achètent ces véhicules-là, souvent, se font conduire par des chauffeurs, ça devient des limousines, puis les passagers à l'arrière n'ont pas l'œil là sur la consommation dans le bloc d'instruments, donc je pense que ce n'est pas une priorité comme on dit.
Je sais même pas s'il y en a la consommation ou même les émissions polluantes d'afficher dans le tableau de bord d'une Rolls-Royce parce que tu en as sûrement déjà conduit aussi. On ne voit même pas le RPM. Hein?
Ah, on voit même pas les révolutions moteurs.
Non, on calibre le tout différemment et on est tellement loin de la performance qu'on ne veut pas indiquer ça au conducteur.
Mais on consomme pas moins, par exemple.
Oh, on consomme vraiment pas moins.
Numéro 5.
Là, le festival des grosses américaines performantes et polluantes.
On s'en vient.
Ah ouais, attache ta tuque.
Testostérone dans le tapis.
Allez, mon minou.
Dodge Durango SRT L4. L4 qui est le moteur en ce moment qui est apprêté pas mal à toutes les sauces chez Dodge parce que on est dans la fin, les last edition, les last call. Et puis, on utilise ce moteur-là. Donc,
il est minuit moins une. On pourra pas étirer ça indéfiniment.
Ouais.
Effectivement, c'est très performant. Tu l'as dit. On place ce moteur-là sous le capot d'à peu près tout ce qu'on a chez Dodge, chez Jeep.
Dont les utilitaires familiaux, dont le Durango.
Absolument. Le VUS intermédiaire à trois rangées, probablement le plus excitant actuellement sur le marché. 410 grammes de CO2 par kilomètre, consommation de 17,4. Encore une fois, la réalité, ça va être plus 25 litres au 100 parce que vous allez vouloir entendre ce gros minou ronronner et on aime ça l'entendre ronronner. Vous allez vouloir entendre le surcompresseur volumétrique sciller dans vos oreilles, puis mon Dieu que c'est le fun.
Mais ce véhicule-là, il y a un problème en ce moment chez Stellantis parce que Stellantis a décidé de le ramener.
Oui.
Puis, ben, les propriétaires s'étaient fait promettre que ça allait être exclusif à 100 quelques mille piastres. Là, on s'entend le Durango
oui,
à certains L4.
Des gens ont acheté ça en disant ça va être un placement, ça va garder sa valeur.
Ben oui.
Ben non, Stellantis a décidé, non, on va en produire autant qu'il y a de la demande pour ce type de véhicule-là.
Ben oui.
Fait que, ben écoute, on n'est pas un OBNL, là, Stellantis, là, on est une compagnie avec des actionnaires. Fait que, ouais, c'est ça.
Ce moteur-là, L4, est profitable. Hein? C'est dans les véhicules qui se trouvent dedans, on tourne tout autour des 100 000 $ Donc, c'est quand même un vieux moteur archaïque qui développe énormément de performance puis que tout le monde apprécie entendre sur la route. Je dis pas, c'est pas tout le monde qui l'aime. Là, nous, on l'aime beaucoup.
Oui.
Mais qui consomme énormément, goulûment de l'essence, comme tu l'as mentionné.
Le mot du jour, goulûment. Numéro 4, LP, le Cadillac Escalade V. Et ça me fait beaucoup rire parce que chez Cadillac, on parle souvent de Stellantis, comme quoi on est à la croisée des chemins, nanana. Mais chez Cadillac, là, on est vraiment à la croisée des chemins. Parce que d'un côté du catalogue, on a le Cadillac Escalade V, qui est plus puissant que jamais, qui est plus bruyant que jamais, qui est un moteur V8 de 6,2 litres, avec la suralimentation. Ça gronde, ça pétasse, ça fait du bruit, ça consomme, ça coûte cher. Puis de l'autre côté, on débarque en ce moment avec le Lyriq,
ouais,
qui est le premier véhicule 100% électrique de Cadillac. Alors, on est réellement à la croisée des chemins et je trouve qu'on est à une époque un peu triste parfois, mais aussi fabuleuse parce que on retrouve deux technologies complètement différentes.
Les antipodes.
Qui se côtoient.
Ouais.
Qui se côtoient.
Dans les mêmes salles de montre,
ouais,
un à côté de l'autre.
Absolument, absolument.
Ouais.
Alors, pour l'Escalade V, on a 436 grammes de CO2 par kilomètre, consommation de 18,6 litres au 100 kilomètres. Je ne sais pas si tu as conduit, toi, la version V du Cadillac.
J'ai conduit les Escalades avec les moteurs atmosphériques traditionnels et puis...
J'ai même conduit l'Escalade diesel, moi.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Ça allait bien, ça.
Ouais. C'est un bon moteur pour ce véhicule-là. Puis chez GM, on n'est pas con. On prend ces moteurs-là dans le gros paquet de composants qu'on a, puis ça devient profitable pour eux. On va donner qu'est-ce que les gens veulent. Un Escalade V, ça faisait du sens pour faire compétition avec les autres gros utilitaires qui consomment beaucoup, mais qui font également beaucoup de bruit sur la route et beaucoup de tapage et c'est qu'est-ce que la clientèle, on va se le dire, américaine veut. Et puis, pour le moment, si on a encore le droit de le faire, ben, on va le faire.
Oui, c'est ça. Parce qu'il est minuit moins une, ça achève. Numéro 3, le Ford F-150 Raptor. Mais pas n'importe quel Raptor, le Raptor R que j'ai pu conduire l'année dernière. Et
écoute,
c'est hallucinant.
On va chercher
camion.
Là, puis dans ce palmarès-là, il y en a un autre. On va chercher des noms de dinosaures, mais c'est du jus de dinosaure qu'ils consomment par galon et galon. Mais c'est très contexte, là.
Oui, parce que, bon, on nous annonce une consommation de 19,7 litres au 100. Ça, c'est à condition de rouler à 100 km/h dans la voie de droite avec le vent du bon bord.
Mais dans le désert, en plein Bajol, là.
Ben oui, vous allez faire grimper cette consommation-là sans aucun bon sens. Vous allez, encore une fois, vouloir entendre le moteur V8 gronder, la suralimentation s'iler. Ouais. Ça fait partie du plaisir parce que je sais que c'est un peu tabou de dire ça, là, mais en 2023, moi, ça me procure du plaisir d'avoir un V8 suralimenté qui produit beaucoup trop de chevaux. Ouais. Moi, ça me fait plaisir.
Ça fait plaisir de le voir encore.
Oui.
Ça fait plaisir de pouvoir les conduire. On est dans un moment dans l'ère automobile qu'on peut encore le faire sans se faire taper ses doigts. Mais évidemment, c'est un plaisir qui est éphémère et ça va finir par finir.
La donnée qui nous intéresse aujourd'hui, 460 grammes de CO2 par kilomètre. Hein, tu vois, tranquillement, plus on s'approche de la plus haute marche du podium, plus cette donnée-là tend à augmenter, puis elle augmente pas mal.
Ouais. Numéro 2. Le Ram 1500 TRX.
Ben oui, en fait, le F-150 Raptor Air dont je viens de parler, c'est la réponse,
c'est le rival,
au Ram, au Ram 1500 TRX.
Ben ouais.
On avait un Raptor initialement. On s'est fait damer le pion par Ram avec le 1500 TRX qui arrivait avec un véhicule beaucoup plus intéressant.
702 chevaux.
Beaucoup plus performant que le moteur EcoBoost. Puis là, ben, on a été en réaction avec le Raptor Air.
Avec le moteur qu'on vient de discuter chez Dodge, qui est en ce moment là apprêté un peu partout puis qui développe énormément de puissance, une recette qui est extrêmement bien ajustée chez Dodge pour être capable de performer.
Qui est très lucrative également, 465 grammes de CO2 par kilomètre, 19,8 litres au 100 km. J'ai pu moi-même mesurer cette donnée-là dans les dernières semaines. J'ai conduit un Ram 1500 TRX principalement sur l'autoroute
Il a fallu que tu réhypothèques la maison.
J'ai pas réhypothéqué la maison, je m'en suis sorti, ça va. Mais tu vois, quand on suit le trafic, quand on conduit de manière, j'oserais dire, plus ou moins civilisée, effectivement, il y a moyen de se tenir autour de 20 litres ou 100 km. Mais la vérité, c'est que quand t'as cette machine-là entre les mains, t'as toujours envie d'appuyer sur le champignon, puis de conduire, mais t'as envie de conduire en sans dessin.
C'est ça, si tu demandes pas au compresseur volumétrique de te fournir de la puissance, parce que lui, il va aller chercher de la puissance du moteur, puis il va la multiplier en rentrant de l'air dans le collecteur d'admission, c'est sûr que c'est...
Oups, on a perdu le signal. Parce que t'en venais très tôt.
Ah, OK. C'est très efficace pour faire beaucoup de puissance, mais les injecteurs se font aller, là.
Numéro 1, la Bugatti Chiron Pure Sport.
Et un véhicule qu'on connaît très bien.
qu'on a conduit à maintes et maintes reprises, toi et moi. Non, évidemment, on fait des blagues. J'ai été le premier surpris que Ressources naturelles Canada ait des données en lien avec ces véhicules-là.
C'est parce qu'il y en a une en quelque part.
Oui, mais qu'ils ont fait des tests. Je trouve ça fascinant. Et oui, c'est le véhicule numéro un, mais c'est le véhicule le plus polluant actuellement au Canada. J'aimerais apporter une nuance intéressante, là. On s'entend que celui qui possède une Bugatti Chiron Pure Sport, il va rouler combien de kilomètres par année? 12?
C'est ça, sur la vie de ce véhicule-là, la vie qui va être, c'est une pièce de collection. Là.
Oui.
Est-ce que un Ram TRX, un Ram 1500 TRX, la Bugatti Chiron, s'entend que elle est très économe comparativement à ce véhicule-là parce que justement, elle roule pas.
Elle est finalement beaucoup moins polluante aussi que n'importe quel véhicule qui va rouler 20, 25, 30 000 kilomètres par année sur les routes du Québec à être congestionné dans le trafic. Parce que dans toute sa vie utile, la Bugatti Chiron va parcourir quoi? 5 000 kilomètres?
Ouais, c'est ça. Donc, cette donnée-là, elle est pour les kilomètres qu'elle...
Exactement. Et c'est 608 grammes de CO2 par kilomètre. Je rappelle pour le deuxième véhicule le plus polluant, c'était 465 grammes de CO2 par kilomètre. C'est un saut énorme. C'est de loin le véhicule le plus polluant. Et dans son cas, ben, on a 16 cylindres.
Ah ouais. C'est 26,1 litres au 100 en conduite combinée, ce qui est quand même assez hallucinant.
C'est énorme. Ouais. Puis on peut imaginer qu'en conduisant cette voiture-là, comme elle mérite d'être conduite, ben, la cote de consommation ne peut qu'être catapultée. On espère que votre degré d'éco-anxiété n'a pas trop augmenté. T'es toujours correct, LP?
Ça va bien pour
pas
le moment,
pas
mais...
Pas de boutons, pas de sueur froide.
Quand même, si ces véhicules-là roulent beaucoup, pour leur part, ils font pas beaucoup d'efforts pour nous aider la planète. Par contre, c'est des véhicules que on peut pas s'empêcher de regarder quand ils passent et on peut pas s'empêcher d'appuyer sur l'accélérateur quand on les conduit.
Ce sont des véhicules qui, pour la plupart, sont vendus en très petite quantité au Canada.
Oui.
Des véhicules qui, dans certains cas, vont être un véhicule principal, mais ça fera souvent partie d'une flotte de véhicules personnels.
Alors, et certains sont des véhicules de collection, donc ne rouleront jamais.
Voilà. Alors, c'est peut-être une nuance intéressante à amener à ceux qui ont des sueurs froides en écoutant tout ça. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer, à l'animation.
Et Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio.